Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9, notre générique qui nous poursuit depuis 3 ans. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. Théâtre donc sur Divergence FM, je suis avec Tito Livio. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et je suis avec la belle Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Vous partagez un micro. Et nous allons avoir un premier plateau avec un spectacle qui s'appelle « La passe imaginaire » qui se déroule à Pierre-Tabar. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Nathalie Baudin. J'essaie de ne pas écorcher les noms. Bonjour.
Bonjour.
Véronique Coire. Bonjour.
Bonjour.
Et Fred Tournaire.
Bonjour.
Alors Fred Tournaire, vous êtes donc le metteur en scène du spectacle « La passe imaginaire ».
Oui.
Donc il s'agit d'un spectacle autour de textes de Griselidis Réal. Pour ceux qui ne connaissent pas Griselidis Réal, qui était une militante des années 70, une prostituée militante, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu le personnage qui veut s'y coller ?
Les filles.
Allez.
Alors, Griselidis Réal... est une femme en fait qui a une femme prostituée qui s'est prostituée pendant 30 ans, qui a été amenée à la prostitution un peu par dépit et par difficulté sociale. Elle était à un moment donné en très grosse galère, on peut dire. Elle vit à Genève et la vie a fait qu'à un moment donné, elle est partie en Allemagne. Elle a embarqué ses enfants, elle avait 2 enfants à l'époque, elle est partie en Allemagne et elle s'est retrouvée à la rue, dans des hôtels, mais à un moment donné à la rue.
En galère.
En galère, vraiment. Et un jour, elle s'est dit, il ne me reste plus que ça, et donc j'y vais. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se prostituer.
D'abord, c'était dans les années 60, au début des années 60.
Ouais, hein. C'est ça.
Et en fait, elle a eu plusieurs vies, parce qu'il y a sa vie de prostituée, et elle est aussi écrivaine,
oui.
elle est militante.
Carrément, ouais. En fait, elle s'est battue vraiment toute sa vie pour la condition des prostituées, elle s'est battue contre l'hypocrisie ambiante. Ces femmes, elles sont là, elles vivent, comme on dit nous dans le spectacle... Elles payent des impôts, elles payent un loyer, elles sont dites à la marge, mais elles sont intégrées vraiment dans leur vie, quoi. Et leur métier, c'est de se prostituer. Voilà.
Et elle avait été connue donc dans les années 70, je crois que c'était en 74, où avec 500 autres femmes, elle avait investi une chapelle
à Paris
pour
la chapelle Saint-Bernard. C'était une vraie révolution, quoi, une vraie manifestation. Et d'ailleurs, elle dit dans ses textes, dans beaucoup de ses bouquins, c'était vraiment une militante. Elle a fait la révolution des putes. Elle s'est battue pour ça. Et elle était toujours en train de rassembler autour d'elle plein de femmes, plein de prostituées. Et ça ressort beaucoup dans ses écrits aussi. C'était le moteur, quoi. Elle était toujours en train de brancher ses copines. Allez, on y va, faut se battre et tout. Et voilà.
Et c'était aussi une écrivaine.
Ouais. Elle a écrit plein de bouquins.
Elle a écrit plein de bouquins, des mémoires.
Très beau bouquin.
Et c'est sa rencontre avec Jean-Luc Hennig qui l'a aidé aussi à être connu du grand public.
Ouais. Alors en fait, ça, je ne sais même pas comment ils se sont rencontrés, je ne m'en rappelle pas. Mais effectivement, à un moment donné, il y a eu une rencontre. Lui, je sais qu'il avait une émission de radio dans une radio à Genève. Donc ça doit être comme ça qu'ils se sont rencontrés, je ne sais plus trop. Et en fait, ils sont devenus amis. Et lui, il était carrément fasciné par Griselidis. Et il l'a encouragé à écrire. Et en fait, elle a commencé à lui écrire des lettres, un courrier vraiment fourni. Pas tous les jours, mais quasiment. Mmh. Et lui, à un moment donné, a dit à Griselidis, moi, j'aimerais bien publier tes lettres. Et donc là, par exemple, le spectacle La Passe Imaginaire, c'est tiré d'un bouquin, donc La Passe Imaginaire, et c'est un recueil de lettres de Griselidis à Jean-Luc Hennig.
Je vais me tourner vers le metteur en scène, donc Fred Tournaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à adapter au théâtre donc, ces textes de Griselidis ?
Eh bien, c'est les filles qui m'ont poussé, en fait. Mmh. Parce que c'est pas du tout une idée originale ni de la compagnie Vertigo, ni de moi-même. C'est les filles qui m'ont demandé de leur donner d'abord un coup de main. Parce que ce spectacle existait plus ou moins, on va dire, avant. Donc, monté par Cycle 28. C'est vraiment la rencontre de deux compagnies, Cycle 28 et Vertigo. J'ai eu la chance d'avoir une représentation... particulière, comme une passe à Sumène, il y a quelques temps. Et j'ai accroché directement sur le texte et sur ces ces trois jeunes femmes, voilà, avec des caractères différents, des voix différentes, voilà. Et je me suis dit, why not ? C'est vraiment le genre de truc que j'aurais pas monté, moi. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment une parole de femme, et il y a un acte militant à l'intérieur fort. Donc ça m'arrange. Je suis assez, parce que c'est bien entendu, on se dit bien entendu que je suis pour. Je peux pas être contre ça, quoi. Mais là, le monter, non. Donc, comme ça vient des filles, c'est super, quoi. Il y a une vraie énergie, un vrai truc. Puis il y avait un challenge intéressant à monter, à surmonter. Et du coup, bah, je suis très content d'avoir rejoint ce projet. Donc, j'ai eu une superbe idée. Au bout du compte.
On a tous vu le spectacle dans le studio. Tito, tu veux dire un petit mot ?
Bah déjà, j'ai beaucoup aimé le choix des textes, déjà. C'est très pertinent, j'imagine qu'il y avait un matériau énorme, il y avait plein de choses à raconter. Vous allez à l'essentiel, et c'est percutant, c'est osé, parce qu'il faut dire les choses et vous le dites, parce que vous les dites, comme elle aurait souhaité, à mon avis, que ce soit dit, parce qu'on n'évite rien. Voilà, ça première chose. Après, j'ai bien aimé votre énergie, le travail entre vous, ça allait très très bien. Voilà, ça c'est les points fondamentaux pour moi. Déjà, le choix des textes, c'est très pertinent, et votre énergie entre vous, et on s'y croit, quoi.
C'est vrai que les textes sont assez percutants parce qu'ils ne cachent rien de la réalité crue de la vie de tous les jours.
Ouais.
Gradia.
Alors moi, j'avais donc une question que je vous ai déjà posée tout à l'heure en antenne. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi de jouer à trois cette pièce.
Bien, bah déjà, on est toutes les trois amies. On a un peu le même parcours au théâtre. On a commencé ensemble. Voilà, on fait les choses ensemble. Et puis, on s'est offert les livres pour nos anniversaires. on avait envie d'approfondir quelque chose toutes les trois. On avait envie d'aller plus loin que les ateliers. Et quand on a lu Grisier 10, toutes les trois, on s'est senties concernées. Et on avait envie de porter la parole de Grisier 10 en tant que mère, en tant que femme. Et puis voilà, donc trois, on n'a pas calculé, un, deux, trois, c'est on est toutes les trois, on est un trio depuis 7-8 ans.
Ouais, c'est vraiment ça, on lisait des choses
ensemble.
On s'était dit, voilà, prochaine étape, on se trouve une matière, un matériau, et on monte le spectacle. Et voilà, celui-là.
D'ailleurs, je peux rajouter, c'est d'autant plus... Il y avait un risque, parce que bien entendu, on peut se dire, l'acte monologique serait peut-être même plus intéressant sur ce truc-là. Mais en même temps, c'est bien parce que c'est toutes les femmes. C'est trois voix vraiment différentes. Rien qu'au niveau sonore. Rien qu'au niveau sonore, il y a déjà un intérêt là-dessus. Et puis c'est vraiment censé représenter, comme je pense Griselidis le sentait, ou enfin le désirait, j'espère, représenter toute femme. Et à un moment donné, elle le dit elle-même, en parlant des bourgeoises, ou la femme dite entre guillemets normale. Voilà, c'est tout le monde est une... est une prostituée, sans reprendre les mots qu'elle donne. Mais voilà, c'est bien que ça soit trois voix, trois genres, trois putes, une pute.
Oui. Oui, d'accord. Oui, non, mais enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi l'esprit de révolte, cet esprit libertaire. Il est très bien rendu. Hein, ça fonctionne parfaitement. Et est-ce que ça révèle aussi un petit peu peut-être la misère sexuelle des hommes quelque part, non ?
En tous les cas, je crois que l'homme n'est pas piégé en voyant la pièce. J'avais un peu peur que d'un seul coup, il soit la victime. Je crois pas. Hein. On se sent pas
non.
Victime.
Non, pas du tout. Hein. Pas du tout.
Donc il y a voilà.
Question.
Oui. Je crois pas. Mais en même temps, non, il est client. Ouais.
Non, et puis pas. Enfin, les hommes, pas plus que les femmes. C'est parce qu'on parle aussi d'elles, des femmes. Et donc ça, c'est tout le monde en prend un peu pour son grade, mais en même temps sans méchanceté,
ouais,
mais c'est tel quel, quoi, tel que la vie est.
On a essayé vraiment que ça soit pas quelque chose où tu te dis bon bah mince j'ai déjà payé ma place et j'en prends plein la gueule. Enfin c'est pas le genre de théâtre qui m'intéresse, même si il existe, c'est très bien, mais j'aime bien la façon de faire passer les choses. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'humour à l'intérieur de ce spectacle. C'est très jeune, hein, en même temps, hein, c'est notre deuxième avec cette mise en scène là qui a vraiment voilà qui a, avec tout ça, donc c'est on est vraiment au démarrage de quelque chose et j'ai beaucoup d'espoir sur l'évolution de tout ça, quand on arrivera encore vraiment à se parler encore mieux tout ça, à se donner tout ça. Il y a plein d'émotions à dégager de ce spectacle-là, il y a de l'humour. Voilà, c'est une balade. Et c'est vraiment une tranche de vie. Et j'espère que par rapport à cette femme-là, on ne s'est pas trompé dans la direction qu'il fallait donner et que ça touche un maximum de gens. Et puis, si ça peut militer un peu, tant mieux.
C'est vrai que Grisilidi s'est décédé en 2005. 2005,
ouais, c'est pas si vieux.
Les prostituées étaient les grandes oubliées de l'émancipation et de l'émancipation sexuelle aussi des années 70. Et donc c'est très très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que ça intéressait Jean-Luc Hennig, parce que ça le concernait. Moi, j'ai toujours dit, puisque j'étais militant à l'époque et j'ai vécu ça, que je voyais ça. C'était une évidence, par exemple, que la cause homosexuelle allait de pair avec la cause des femmes. Émancipation des homosexuels, hommes et femmes, et surtout hommes, ça allait de pair avec la libération de la femme. Et ça, les gens, à un moment donné, il y a eu un déclic quelconque qui a fait que les gens ont compris. Peut-être avec Milk à San Francisco. Il y a un moment où les gens ont compris. Mais les prostituées ont toujours été en marge de ça. Et je crois que j'ai cru comprendre que c'était ça, un peu une bonne partie du combat de cette femme, c'était ça. Et en plus, moi, je côtoyais, comme vous pouvez imaginer, ce qu'on appelait les lesbiennes radicales, qu'évidemment, la prostitution, les prostituées, c'est des vendus. J'ai écouté des trucs absolument épouvantables sur les pauvres femmes. Et c'est très intéressant de revenir là-dessus. Moi, j'ai un souvenir, juste pour finir. Il y a eu un grand débat, par exemple, au Portugal sur la question de la prostitution. Et par exemple, nos a priori, quelque chose qu'on pense avec très bonnes intentions, par exemple, c'était unanime qu'elles étaient contre la réouverture des maisons closes. Alors que nous, bourgeois, on pense que ce serait plutôt une bonne chose. Eh bien, pas du tout, visiblement. Vous voyez, ça, c'est très intéressant. Et c'est bien de ramener ce combat. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Alors, aidons. Si on peut aider un petit peu, même par une pièce de théâtre, aider ces femmes, moi, je suis pour.
Après, il y a des sites, il y a plein de sites encore Grisilidis, des choses comme ça, oui, qui sont encore actifs. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le... Bon, alors, je connais pas la page ou tac, mais c'est facile d'accès. Il suffit de taper son nom. Hein. Et il y a encore plein d'endroits où il y a à militer, à des recueils. Donc, c'est-à-dire que toute la masse d'informations qu'elle a gardée toute sa vie, il y a une fondation. C'est pas une fondation, c'est où il y a toujours.
C'est une sorte de. Ouais, c'est une association.
Ouais, quoi, voilà. Où il y a encore.
Ils ont un site d'ailleurs.
Voilà, où il y a toutes les choses pour se renseigner sur la prostitution, tout ce qu'elle parle sur les renseignements, etc. etc. Ouais. Quand on a envie de se renseigner, ça existe encore. Donc, c'est d'actualité.
Ouais. Mais c'est sûr que... Enfin, voilà, je suis d'accord avec ce que vous disiez, parce qu'il y a encore vachement de boulot, quoi. Nous, on a joué, par exemple, une fois à Saint-Étienne, et on avait un public... Enfin, parmi le public, il y avait des féministes et puis des lesbiennes radicales. Après, c'était super intéressant. Après le spectacle, on a beaucoup discuté avec elles, mais on était... Elles étaient outrées, quoi, carrément. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait avoir, je vous avais demandé, si on pouvait avoir un petit extrait, un ou deux petits extraits, est-ce que c'est possible?
Ouais, bien sûr.
Pour voir un petit peu le ton de la pièce.
Ce qu'on veut, nous, c'est de l'argent.
Pour salaire de notre travail, pour payer nos factures, les loyers, le gaz, l'électricité, le téléphone.
La blanchisserie. Puis il faut manger aussi, hein, sous peine de crever.
Et encore? Se soigner quand ces messieurs nous rendent malades.
Ah, j'ai oublié l'essentiel, hein, les impôts.
Ah non, hein, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour le plaisir. C'est déjà assez dur, hein, après c'est de promener une heure dans la nuit, dans le froid, dans l'angoisse, de ramener un monsieur qu'on ne connaît pas.
Bah oui, hein, c'est toujours inquiétant malgré tout. On ne sait jamais d'avance s'il va vous payer ou vous assassiner.
Et ensuite, de gré ou de force, bah, il faut le faire bander. Et encore, ce n'est pas fini. Hein.
Il faut encore qu'il éjacule.
Alors ça, la plupart du temps, ce n'est pas du plaisir.
Ah ben non, ce sont les travaux forcés, hein, comme au bagne.
Le fameux plaisir, si nous avons envie d'en ressentir.
Ce qui est excessivement rare, hein, vu que la plupart des hommes sont incapables d'en donner. Ils arrivent tout juste à en prendre.
C'est notre affaire, ça, et ça ne les regarde pas.
Donc ça, c'est le premier.
Bravo, parce que je sais que c'est un exercice difficile de passer du plateau au micro. Vous aviez un deuxième extrait, je crois.
Au premier temps de notre lutte, en 75 à Paris.
Des féministes, pour se blanchir, s'étaient trouvé un alibi.
Nous sommes toutes des prostituées.
Comment ça, des prostituées?
Non mais mesdames, avez-vous songé à passer aux travaux pratiques?
Il faudrait commencer par déboutonner un peu vos ceintures de chasteté.
Et la cuirasse de vos vertus.
Étudiez donc un peu l'anatomie de vos maris.
Et la vôtre surtout.
Ne vous contentez plus de vous étendre insensible et dur comme des planches à lessive.
En priant Dieu et le pape pour que ça passe plus vite.
Ce n'est pas du boulot ça mesdames.
C'est la mort de l'amour.
Oui, c'est toujours le cul qu'on assassine. Et les névroses de l'âme suivent allègrement.
Gorgées de Valium jusqu'à l'os.
C'est vous les vrais putains.
Les garces conjugales.
Je crache sur vos cœurs et sur vos culs glacés.
Ça donne bien une bonne idée du spectacle. Hein, ça, voilà. Donc, le spectacle s'appelle La Passe Imaginaire. C'est au théâtre Pierre Tabar. Ce soir et samedi, c'est à 21h. Et dimanche, c'est à 19h, si je ne m'abuse.
Et juste pour ajouter, ceux qui ne la connaissent pas en tant qu'écrivaine, il faut venir l'entendre. Parce que là, je ne sais pas si rien qu'à l'écoute, c'est une superbe écriture. Il y a vraiment un truc. Il y a eu un vrai talent. Quoi.
Absolument, voilà. Absolument. Mais justement, on va se quitter, faire une petite pause musicale. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau.
Merci.
En 1985, Jean-Guy Donny avait enregistré un extrait des Carnets de Griselidis. Oui.
On veut quand même avoir un petit mot pour Lydia qui n'est pas là, qui travaille à Radio Escapade.
Voilà. Lydia Morjane.
Voilà, on est trois.
Bisous Lily.
Et vive le printemps.
Donc en 1985, Jean-Guy Donny, aidé d'Alain Bachung, avait enregistré des textes de Griselidis. Ça s'appelle le Carnet de Griselidis.
Dali, aime bien prendre son temps, embrasser, sucer, enculer, baise avec conversation, 150 francs. Doudou le juif commente la Bible et porte des bas, baise dans le Brest, 150 francs. Le gros Gustave veut qu'on le punisse sévèrement, fustigé, griffé, craché. Et pisser sur lui, 100 francs. Joseph de l'aéroport, femme décédée il y a 2 ans, ne pas brusquer, suspense, 70 francs. Le beau Mickey, immense voiture crépusculaire, vient de l'ombre, sentimental, 100 francs. Marcel le petit vieux, envoyé par Josie, pincer les seins, ne doit pas jouir par ordre médical, jouit quand même de temps en temps, 100 francs. Pierre le grand maigre, avec beaucoup d'art, fourmis japonaises, jouées dans la bouche, dit que je suis une parenthèse dans le temps, 80 francs. L'énorme Robert, faire attention que ses ulcères soient pansés, sucés, parler, boire du whisky, très spirituel, 100 francs. Victor le français, attention. Ne pas sucer, branler en disant des cochonneries, 150 francs, 150 francs. Le petit Bobby fait l'amour très simplement, 100 francs, 100 francs. Le petit Bobby fait l'amour. Simplement.
simplement 100 francs. Le petit Bobby fait la montre simplement 100 francs.
Vendredi théâtre sur Divergence FM. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était Jean-Guy Denis, le carnet de Griselidis. Et nous avons un deuxième plateau qui vient d'arriver. Nous allons parler d'un spectacle qui s'appelle Entracte, qui est au Carré Rondelet. Et donc, nous avons comme invité Jean-Michel Bock. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ?
Non, c'est Bloch ou je sais plus quoi. Non, c'est pas Bock.
J'ai pas de retour.
C'est Bloch ou.
Ouais, Bloch, oh, peu ou importe du moment qu'on m'appelle. Ça va. Oui, bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir que vous m'invitiez, hein, ça, mais en même temps, je ne sais pas trop quoi vous dire. Hein. Je me demande même pourquoi vous avez cette idée saugrenue de m'inviter, dans la mesure où je ne peux rien vous dire sur ce que vous avez vu d'ailleurs hier soir. Vous comprenez pourquoi.
Donc Tito et Gradia, vous avez vu le spectacle. Bon, on va peut-être commencer d'abord. Pourquoi ça s'appelle Entracte ?
Ah, c'est difficile parce que si on dit pourquoi, justement, après, on n'a pas l'effet de surprise.
Voilà.
En fait, ce qu'on appelle, c'est pas tout à fait un stand-up, mais c'est un stand-up quand même. Hein ?
Oui, je sais pas, il y a tellement de mots pour le dire. Il y a seul, en solo, one-man show, stand-up, il y a tellement d'appellations, on s'y perd. J'ai pas
pensé. Un spectacle pour un homme seul.
Voilà. Un spectacle pour un homme seul, c'est ça.
Mais c'est pas une enfilade d'anecdotes comme dans les stand-up, quoi. C'est pas un truc où ça s'enchaîne des anecdotes. Il y a quand même une situation.
Ah, c'est difficile d'en parler, hein.
Non. Non, mais il y a une situation et donc les choses arrivent en fonction d'une situation et non pas un enchaînement de scénettes qu'on raconte plus ou moins drôles.
Mmh. Voilà. Ouais. Moi d'ailleurs, justement, pour ménager l'effet de surprise, j'ai fait une communication, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les affiches ou sur les tracts. J'ai eu un revers de bâton. J'ai lu récemment dans Jeudi Tout, c'est un magazine, je ne connaissais pas. Ils ont commencé par dire Entracte, une pièce avec 4 musiciens, 4 comédiens. Donc, il n'y avait rien à voir. Il faut s'attendre à ce genre de méprise dans la mesure où, effectivement, je ne dis pas grand-chose sur mes affiches ou sur mes tracts.
Mais c'est vrai que nous, à Divergence et pour Vendredi Théâtre, on va voir les spectacles. Donc c'est pour ça qu'on a deux chroniqueurs ici qui ont vu le spectacle pour pouvoir en parler ou essayer d'en parler.
Ouais. Bonne chance.
Oui, essayer d'en parler. Bonne chance, merci beaucoup. Non, en fait, oui, effectivement, c'est une série de mises en situation. Hein. Il y a des moments extrêmement drôles, notamment lorsque vous voulez vous désabonner de Facebook ou lorsque vous allez rencontrer le propriétaire du théâtre, comment on appelle ça,
le directeur du théâtre.
Ça, ouais. C'est très drôle. Tout est tourné en dérision, en fait. C'est très marrant. Les gens rient aux larmes. Hein. On entendait une dame qui vous couvrait parfois, tellement son rire était fort. Et je me suis demandé, mais comment vous vous en sortez si bien? Je veux dire, vous avez écrit un texte, il y a un canevas, c'est de l'improvisation, comment
Non, il y a un texte.
Il y a un texte. Parce que c'est tellement bien fait qu'on pourrait se dire, bah, tiens, il invente là, quoi, il invente.
Oui. Non, j'invente rien. Il n'y a pas une once d'improvisation. Si, bien sûr, si, justement, au moment où... Bon, on ne va pas en parler non plus. Mais non, j'ai tout écrit. D'ailleurs, je remercie Avner, hein, le directeur du théâtre, qui m'a pris les yeux fermés, parce qu'il ne savait pas du tout ce que ça allait être, mais vraiment pas. Il m'a fait une confiance aveugle, ça je lui en remercie, parce que avec les informations qu'il avait, il aurait très bien pu dire « Non mais donne-moi un peu plus ». Mais j'ai dit « Non, je peux pas ». Et il m'a dit « Ok, début mai, ça sera parfait ». Donc c'était, déjà je tiens à le remercier. Et je tiens aussi à remercier Nicolas Natariani, mon technicien lumière. Le pauvre Nico qui m'a suivi dès le début et qui a une confiance également aveugle en moi. Là je la remercie, je sais qu'il m'écoute. Donc comme c'est en direct, ça c'est bien, on peut dire n'importe quoi. Tu vois, je peux dire prout, c'est très bien, ça passe quand même. C'est ça l'avantage. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire aussi, la pièce que, d'avant, là, celle qui était... elle passe à l'adresse... En Avignon, à 20h.
Ah oui, oui,
il faut le dire ça, parce qu'il a oublié, c'est un ami. Donc, voilà.
Vous êtes copains, oui.
On est copains depuis trop longtemps.
Mais pour qu'on se donne un petit peu une idée de ce que c'est, vous êtes venu avec un extrait?
Oui, non, c'est pas un extrait, c'est une espèce de teaser qui vous apprendra rien de plus, mais que je trouve drôle.
Bon, on va voir ce que ça donne.
Entracte de par, pour et avec Jean-Michel Bock. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est, hein, ce spectacle? Eh bien, c'est toutes les émotions que vous voulez ressentir. Parce que mince, après tout, vous aussi vous avez droit au rêve. Et qu'est-ce que c'est, 12€? Une place de ciné avec un mauvais coca, 3 jeux à gratter perdant, 2 paquets de clopes qui encrassent les poumons, un bouquet de fleurs qui vous assurera pas de mettre cette fille à l'horizontale, un DVD que vous pourriez télécharger, 700 grammes de légumes dans un marché bio. Donc, il n'y a plus à réfléchir, ni à se poser des questions. C'est un 20h30 et c'est au Carré Rondelet du 2 ou 12 mai. À vous à présent les horizons infinis. Et faites gaffe, parce que le dimanche, c'est à 18h30. Je comprends même pas ces horreurs. Ah oui, juste une chose.
C'est vrai que c'est très drôle.
Bon, j'ai un peu honte, c'est mon propre fils. Je fais travailler tout le monde.
On exploite ses propres enfants.
Ben oui, j'ai pas les moyens.
Ah oui, alors oui, non, mais
t'es
si,
donc expulsable
pas,
là.
Oui, complètement. Ouais.
C'est ça. On peut pas raconter, on peut pas dire des choses sur ce spectacle, parce que c'est.
Vous regrettez de m'avoir invité. Hein.
Non, pas du tout. Mais je veux dire, bon, par exemple, les différences de coûts entre le théâtre, le cinéma, la télé. Enfin, bon, ben, cette scène sur les comparses, on dit en français au cinéma. Ceux qui ont des petits rôles, comment vous les appelez en français, je sais pas.
Les figurants, pardon,
les comparses, c'est en italien. Voilà.
Je savais pas, vous étiez italien.
En portugais aussi, au théâtre, aux comparses.
Ah oui, ça c'est extrêmement drôle, quoi. Mais enfin,
c'est vrai que dans le studio, nous avons un portugais et une italienne. C'est très divergent.
C'est pour les quotas.
C'est pas du tout pour les quotas, c'est naturel chez nous.
D'accord.
Donc c'est une création au Carré Rondelet.
Complètement, oui, c'est une création. C'était la première donc
c'était
hier.
C'était la première hier.
J'étais un peu tendu, mais ça s'est pas vu manifestement. Mais voilà, j'espère qu'il y aura autant de monde ce soir et que ça va continuer. J'ai pas beaucoup affiché. La Gazette m'a pas. Allô, la Gazette. Il faudrait faire quelque chose sur moi. Le Midi Libre, pareil, ils ont rien fait.
Mais c'est vrai que...
Ça ne nous étonne pas du tout.
Ça nous étonne à moitié. Il y a des petits théâtres qui sont régulièrement oubliés par les journalistes. Et heureusement que Divergence FM est là pour aller voir les spectacles et pour vous recevoir, même et si ce n'est pas facile.
Et on le dit d'autant mieux que quand on... plusieurs fois, j'ai dit ça aux journalistes Midi Libre.
Et ils vous en rient au nez. Ouais. Même pas. D'accord. Oh là là.
Je capte.
D'accord.
Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait dommage parce qu'il se passe plein de choses dans les petits théâtres, que ça soit à Pierre Tabar, au Carré Rondelet ou à la Vista, et on rencontre pas beaucoup de collègues. C'est rare.
Ouais. Mais est-ce que vous avez beaucoup de comment on les appelle
les auditeurs.
D'auditeurs.
Oh, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers.
D'accord, très bien.
Et on n'est pas à Marseille. Le monde entier nous écoute ou peut nous écouter puisqu'on est non seulement sur le 93.9 mais on est aussi sur le net, par le site.
D'accord.
Et l'émission d'ailleurs sera podcastée à partir de demain.
Ok.
Donc le monde entier peut nous écouter.
Formidable, écoutez, c'est génial.
Et donc la première hier, et vous avez eu des réactions du public après ? D'après ce que j'ai compris, ça, oui, pendant le spectacle, ça a beaucoup ri.
J'ai eu des retours. Hein,
voilà. Ah ouais, les décors étaient bien.
Hein. Voilà, oui. Et puis les costumes.
Et puis votre costume. Ah là là, oh, là. Et les lumières. Oh,
les lumières. Extraordinaire.
Mais il a fait des frais de costume. Parce que j'ai remarqué.
Hein, vous l'avez vu? Non, évidemment, j'ai eu des retours positifs. Mais j'avais quand même des amis comédiens, ce qui est un pléonasme, hein, parce qu'au bout de 15 ans dans ce métier, on ne fréquente plus les gens normaux. Donc,
il y a d'autres professions comme ça aussi.
Oui, c'est vrai. Non, j'ai eu de bons retours qui ont été, qui ont été positifs. Alors bien sûr, hein, comme c'est des pros, ils cherchent la petite bête, les petits. Là, tu as été un peu machin. Voilà, il y a à boire et à manger, mais c'était très positif dans l'ensemble. Non, j'étais assez content. Je flippais un peu déjà de savoir s'il allait y avoir du monde.
Et puis, ça, on ne sait jamais.
Ah, ouais, c'était plein. Mais bon, ce soir, on verra. Peut-être
oui, non, mais c'est un spectacle plein de surprises, de rebondissements. C'est vraiment quelque chose de très agréable à voir. Quoi. Il faut... Allez-y. Mais
peut-être que ce soir, je n'aurai que 4 personnes si le bouche-à-oreille fonctionne.
Non,
j'aime bien l'autodérision, évidemment. Non, j'espère que ça va marcher. Ouais. Et après, peut-être par la suite, effectivement, l'amener en Avignon ou l'amener ailleurs. En fait, ce dont vraiment le gros doute que j'avais, c'est que comme ça parle quand même du théâtre, qui est un peu ma vie, il y avait une chose où j'avais peur que le public lambda, entre guillemets, les gens normaux, ne puissent pas. Que ça fasse private joke ou que ce soit pas accessible. J'ai voulu vraiment vulgariser. Tous ces codes, j'ai vu des gens normaux qui m'ont dit non, c'est super, on comprend tout. Donc là, je suis assez rassuré. J'avais peur de ça en fait au départ. J'avais peur que ça fasse un peu cantine, un peu. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous confirmez, on comprend tout ?
Oui.
Il a posté, je ne sais pas si c'est vous qui avez posté cette vidéo sur Internet.
Oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai réalisé.
C'est très drôle.
C'est
ça.
Moi qui l'ai réalisé.
Alors, parlez-nous-en.
Justement, je voulais faire un teaser aussi en image et j'ai pris des gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas, je vous assure, hein, des comédiens d'autres noms. Je leur disais, mais vas-y, tu fais comme si tu l'avais vu et que ça avait changé ta vie, quoi, que c'est super, etc. Et donc, j'ai fait un montage de ça et j'ai fait ensuite, j'aurais fait dire l'inverse, en disant, c'est de la merde, non, mais il faut qu'il change de métier.
C'est très, très drôle. Allez la voir, cette vidéo, sur le net, c'est vraiment très drôle.
Je crois que c'est teaser, entr'acte, je crois que sur YouTube, vous pouvez y aller. Ouais. Je pense que je suis en pole position maintenant, parce qu'il y a quand même 455 000 vues.
Pas 47
Non.
Presque autant que d'auditeurs à Divergence.
Non, je ne suis pas Adrien Soulier.
Ça vous a fait rire. Ça vaut beaucoup. Ça, c'est jouissif.
Bon,
il y a un moment qui ne va pas plaire à tout le monde.
Non,
mais,
non, c'est sûr.
Voilà. Vous disiez que ça fait 15 ans que vous êtes comédien. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Ce que vous avez fait avant ? Un petit peu, brièvement.
Oui, je suis comédien, metteur en scène depuis maintenant 15 ans. On ne voit pas le temps passer, mais je travaillais avec beaucoup de compagnies différentes. Mais bon, ma compagnie, c'est quand même maintenant Vertigo, avec Fred Tourner. Mm-hmm. Les Télémites aussi, juste avant, pendant plus de 10 ans. C'est un milieu assez fermé, donc on connaît tout le monde se connaît. Je ne sais pas quoi vous dire sur mon parcours, je prends beaucoup de plaisir moi à mettre en scène comme à jouer, même si c'est complètement différent. Et là, c'est une première pour moi d'avoir écrit vraiment pour moi et de le jouer. Et de faire le décor et de faire la com. Et de faire...
L'écriture, c'était une première pour vous ou vous aviez déjà abordé
J'avais relativement abordé comme ça pour des pièces, mais pas vraiment, de cette ampleur-là, pour une heure de spectacle ou deux ou trois. D'ailleurs, le spectacle dure 4 secondes ou 4 heures, hein, c'est à vous de voir.
4 secondes, c'est quand vraiment ça se passe très mal dès le début.
Non, 4 secondes, c'est quand ça se passe très bien.
Ah
Ah non, j'ai une vie privée.
Repérer les portes de sortie, il faut les repérer.
Hein. Bah, je propose que tu fasses la même chose que Flore et moi à une époque, je ne sais pas pourquoi. On a été invités, je ne me souviens plus du tout pourquoi, à la première de La valise en carton.
De Linda de Souza.
Linda de Souza. Je ne sais pas pourquoi on s'est trouvé dans cette galère. Ah et oui, c'était évidemment épouvantable. Ouais, mais à un point que les gens ne peuvent pas imaginer. Et déjà que je déteste, c'est pour ça, parce que je déteste la comédie musicale à la française. J'ai horreur de ça.
Ouais.
Et ça devait être mon fond portugais en disant, bon, il faut quand même y aller. Et alors, évidemment, moi, je ne sors pas au milieu du spectacle. J'ai pour principe sortir soit à la fin, stoïquement, soit à l'entracte. Et donc, on arrive à l'entracte, on va pour sortir. Et les portes étaient fermées.
Non,
Et ah, on était, il y avait une foule immense qui se pressait contre les portes, non. Mais les portes étaient fermées.
C'est vrai. C'était dans les années 80.
J'ai jamais vu ça. C'est vrai. Ils ont fermé les portes, sachant très bien que... Oh là là.
Ils avaient tellement peur que tout le monde parte à l'entracte.
Ah non, c'est énorme. Oui, d'ailleurs, il y a de moins en moins d'entractes, hein, si vous remarquez. Vous comprenez
donc
n'importe quoi.
Même.
Enfin, s'il y en a un, il est carrément de lait. Non, mais c'est énorme, ça, c'est énorme. Non, c'est vrai que... Non, mais blague à part, effectivement, quand on va voir des copains, parce qu'on est obligé hein, d'aller voir les copains, ça fait partie du métier, quelque part, c'est l'envers du décor. On repère les sorties, on se met bien au fond. Moi, je suis allé voir une vraie merde récemment. D'ailleurs, je suis parti au bout d'un quart d'heure. Vraiment, mais je les ai attendus après pour les retours. Mais je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait de moins en moins, mais je l'ai fait, c'est sûr. On est là, on subit. Je viens de recevoir un texto là, de mon Nicolas, là, Natariani, qui me dit « Parle de Hamelin, s'il te plaît, à la Vista. » Alors, il y a un spectacle.
Spécial copinage.
Spécial copinage. Hamelin, j'ai vu la générale, c'est bien, c'est pour les enfants. C'est très très bien. Voilà, je pas là en revanche, je peux vous parler, c'est les lumières sont super, Nico, je t'assure, je les ai vues, elles sont vachement bien. T'es content ? Voilà, je l'entends rire d'ici. Il me dit c'est bon ça.
Voilà, on va rappeler que le spectacle s'appelle Entracte, oui. C'est au Carré Rondelet. Vous avez les dates et les horaires en
oui,
tête ?
C'est du 2 au 12 le jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche à 20h30, sauf le dimanche où c'est à 18h. Il y a une coquille sur les bandeaux, c'est 18h et non pas 18h30.
18h
le
dimanche.
Dimanche et 20h30 du jeudi au samedi. Voilà, ce soir c'est la seconde.
Bah écoutez Jean-Michel Bock, merci de nous avoir... J'ai répété, hein. Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau.
Avec grand plaisir.
Bah on va revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la prostitution. Et j'ai retrouvé une chanson dans mes archives, un enregistrement de 1932, Fréhel, qui nous parle du pont noir. Sous le pont noir, que se passe-t-il ?
La vieille radeuse aux yeux flétris, y a trop de lumière en plein Paris. Elle fait maintenant les environs dans les Renault et les Citroën. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin d'être une poule de luxe. On n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou. Naturellement, c'est la soupe qu'on s'embusque. Quand ça ne prend plus sur le boulevard Rochechouart, Et c'est pourquoi, sous le pont noir, les sans business ont toujours un espoir. Sous le pont noir, c'est merveilleux, il y a des petites filles pour vieux messieurs, elles leur font pss, j'ai 14 ans, arrêtez-vous, profitez-en, mais on devine à leurs appâts que les mois de nourrice ne comptent pas. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin d'être une poule de luxe, on n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou. Naturellement, c'est là-dessous qu'on s'embuste pour présenter ce qu'on ne peut plus faire voir. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, les sans-amour ont toujours un espoir. Quand c'est une dame qui tient le volant, c'est le vieux Julot de Ménilmontant qui s'approchant d'un air narquois propose la botte de fleurs des bois. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que très souvent l'auto s'arrête un grand moment. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin qu'on soit un coq de luxe, on n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou. Naturellement, c'est là-dessous qu'on s'embuste quand la volaille, hélas, vous laisse choir. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, tous les sans-uns ont toujours un espoir.
On va commencer ?
Maman ?
Oui ?
C'est quoi la masturbation ?
Divergence FM.
Doigt devant, je mets le doigt derrière. Je mets le doigt devant, je fais le tir, le tir, le tir.
Je prends le date de l'avenue, le cover. L'inconnu de veillant vie, dis bonjour, un homme ton fils.
Divergence FM.
Yeah, if you feeling like a pimp, nigga, gone, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, gone, brush your shoulders off. Niggas is crazy, baby, don't forget that boy told you kid that dirt up your shoulder.
Divergence FM, le 93.9, Divergence FM avec ses célèbres jingles maison. Vous êtes toujours sur l'émission Vendredi Théâtre et le troisième plateau. Il y a beaucoup de monde dans le studio. Nous allons parler d'un festival qui a lieu en ce moment à Pierre Tabar. Il s'agit du festival Jeunes Talents. Alors, je n'ai pas tous les noms, donc je vais vous laisser vous présenter les uns et les autres. Allez.
Émilie Dubreuc, je joue dans Le Silence de Nathalie Sarraute, mis en scène par Théo Le Perron qui est juste là.
Voilà, c'est moi, Théo Le Perron. Je mets en scène Le Silence, dans lequel joue également Arthur Clos, qui est juste là.
Bah, Arthur Clos, qui joue donc dans Le Silence et aussi dans 2S, une autre pièce du festival Jeunes Talents.
Et Elena Masson, stagiaire en chargée de communication au théâtre Pierre Tabar.
Ah, c'est vrai qu'on ne s'est pas encore rencontrés, je ne vous connaissais pas encore.
Non.
Alors, ce festival donc Jeunes Talents, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors donc c'est un festival qui dure 2 semaines, qui se termine ce dimanche 5 mai, qui regroupe 7 pièces très différentes les unes des autres et qui bien sûr donc met en scène de jeunes talents, donc de jeunes comédiens qui se lancent, de jeunes metteurs en scène, également de jeunes écrivains. Voilà.
Alors il y a des écrivains consacrés comme Nathalie Sarraute, il y a du Ionesco, vous pouvez nous dire un mot sur les autres spectacles ?
Oui, alors ben il y a par exemple.
Après, on parlera du silence.
Il y a L'heure avant l'heure qui se joue donc ce dimanche 5 mai à 21h. Donc voilà, donc c'est 3 jeunes comédiennes qui sont sur scène et qui se remémorent les pensées d'une comédienne avant de monter sur scène. Donc c'est très comique, c'est comme une petite partie de ping-pong entre les trois. C'est vraiment sympa et donc c'est la première création professionnelle de la compagnie Prends-en de la scène, une compagnie cressoise.
Je ne connais pas encore. Et les autres spectacles ?
Alors les autres spectacles, donc on a 2S qui se joue ce soir et donc écrit par Arthur Clos à côté de moi. ou jouer également, il joue dedans aussi. Donc voilà, donc il joue ce soir à 19h, je ne sais pas si tu veux en parler.
Ben, rapidement, c'est une histoire de quelqu'un qui est tout seul chez lui et qui, avec la solitude, va devenir un petit peu schizophrène et va se combattre lui-même dans un combat acharné, à la fois musical et théâtral. Voilà.
Et comment vous avez choisi à Pierre Tabar les jeunes talents ?
Alors, en fait,
c'est Damien ?
Oui, donc c'est Damien qui a choisi. Je n'étais pas encore là quand ça a été fait. Mais donc, par exemple, il y a la compagnie Je pars hasard qui est en résidence.
On a reçu de nombreuses fois à cette antenne.
Donc forcément, leurs spectacles ont été privilégiés. Et ensuite, Damien voulait un grand éclectisme entre les pièces. Donc, par exemple, Swinging Pool, il y avait beaucoup de cabarets, de cirques. Voilà, il y a également donc, des classiques comme Les Chaises de Ionesco. Et puis... des choses plus comiques comme L'heure avant l'heure. Donc voilà, il y a un petit peu tous les styles dans ces pièces.
Et c'est vrai que c'est plutôt rare d'avoir un théâtre qui essaye de faire découvrir des jeunes talents.
Oui, c'est assez rare. Bah, c'est aussi la première année que ça se passe, même à Pierre Tabar. Mmh. Je pense que c'est vraiment une volonté de Damien Goudet de donner sa chance aux jeunes compagnies qui se créent, qui ont envie de trouver un lieu pour exprimer, donc voilà, pour montrer leur talent, pour montrer ce qu'elles savent faire. Et oui, je pense que c'est assez rare, en effet, même à Montpellier. Mmh. C'est pour ça qu'on est assez fiers et que ce festival nous tient beaucoup à cœur au Théâtre Pierre Tabar.
Ben on va parler un petit peu maintenant du spectacle Le Silence. Alors, Le Silence, c'est un peu une gageure, parler du silence à la radio.
Effectivement, c'est paradoxal.
C'est assez périlleux même. Alors, donc, il s'agit d'un texte de Nathalie Sarraute, une pièce de théâtre de Nathalie Sarraute.
Une pièce de théâtre, mais dont il n'est pas si périlleux de parler à la radio, puisqu'à la base, elle a été écrite pour la radio, justement. Voilà, ça laisse une grosse liberté de mise en scène, puisqu'il n'y a aucune information précise, il n'y a pas de didascalie... de scénographie, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai pu imaginer tout ce que je voulais au niveau scénique, quoi.
Et comment vous avez découvert ce texte ? C'est un hasard ou c'est...
Je l'ai découvert au conservatoire à Toulouse, en fait, il y a 5 ans. Je voulais le monter là-bas, ils n'ont pas voulu. J'ai reproposé à Montpellier, ils n'ont pas voulu. J'ai fini le conservatoire, je l'ai monté tout seul en faisant scrogneugneux de scrogneugneux, je vais le monter, voilà.
Alors, vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit dans la pièce ? Parce que moi, je ne l'ai pas encore vue, j'avoue.
La pièce se passe dans un hôpital. Il y a un personnage central, Jean-Pierre, qui est très en valeur sur la scène, on ne voit que lui. Et il se tait, il dit rien. Et en fait, son silence absorbe complètement la conscience des autres. C'est-à-dire que tous les autres personnages autour deviennent fous parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils essayent de le dérider, ils essayent de le faire parler, ils essayent de comprendre même ce que peut vouloir dire son silence. Et donc, il y a une espèce de logorée verbale comme ça pendant une heure, pendant que lui se tait, en fait. Et plus particulièrement, l'homme 1, qui est fou, du coup, en le voyant, et qui est entouré par les docteurs qui essayent de le soigner, quoi.
Moi, c'est un texte que je ne connaissais pas, de Nathalie Sarraute. Elle a déjà été mise en scène, cette pièce ?
Oui, elle a déjà été mise en scène, même un paquet de fois, je pense. Notamment par Jean-Louis Barrault, au début.
Ah oui !
Voilà.
Un gros morceau, quand même.
Un gros morceau, oui, voilà, c'est pour ça. Que j'avais envie de faire quelque chose de différent parce que pour le coup, justement, ça a souvent été monté comme une discussion de salon, en fait. Mmh. Et c'est comme ça qu'on l'imagine si on n'entend que le texte, je pense. Mais comme justement l'homme 1, le personnage principal, a un discours très très décousu, pour moi, c'était à la limite de la folie, quoi. Mmh. Donc du coup, pourquoi pas exploiter le concept au maximum et le pousser justement jusqu'à voir ce que ça donne si on imagine qu'il est vraiment fou.
Je vais me tourner vers les comédiens. Vous jouez quel rôle dans la pièce, les uns et les autres ?
Alors, c'est un peu compliqué, étant donné qu'il n'y a que Jean-Pierre qui a... Pardon. Il n'y a que Jean-Pierre qui a un nom. Donc, moi, je joue la femme 1 et la femme 3. F1, F3. Et Arthur joue...
L'homme 2.
Voilà.
Le docteur.
Voilà. Et donc, on n'a pas de réelle identité, en fait, dans cette pièce. Donc, on n'a même pas de prénom. On n'a pas de nom. Donc c'est assez particulier aussi à jouer dans le travail, puisqu'on a dû inventer toute une vie à notre personnage, on a dû créer toute une construction aussi, tout un cheminement, une évolution qui n'est pas toujours évidente à suivre, je pense, pour les gens qui regardent, mais qui nous fait très plaisir en tout cas à interpréter sur scène.
On va parler maintenant du public. Donc c'est une création que vous avez faite à Pierre Tabar. C'était quand la première ?
La première, c'était le 22 avril.
Et alors les réactions du public ? Est-ce que le public est venu déjà?
Oui, le public est venu, heureusement, parce qu'on a beaucoup de copains. Alors, les réactions du public, c'était vraiment savoureux en ce qui me concerne, parce que j'avais envie de faire un texte qui soit pas forcément une pièce, qui soit pas forcément quelque chose qui apporte des réponses tout de suite, en fait. Parce que pour moi, justement, c'est juste une grosse question. Et c'est aussi pour ça que je voulais le monter, parce que je sais que ça a souvent fait débat. C'est-à-dire que même quand Jean-Louis Barrault l'a monté, pourtant, a priori, Jean-Louis Barrault, ça va, il sait ce qu'il fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé, en fait, ou qui ne comprennent pas, parce que justement, ils sont perturbés par ce manque de réponses. Il y a beaucoup de questions qui sont posées et il n'y a pas tellement de réponses à donner. Justement, chacun se fait sa propre idée, quoi. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a plu, justement, dans les réactions du public, c'est que chacun s'est raconté une histoire différente, vraiment.
Quand Jean-Louis Barrault l'a monté, c'était dans les années 70, non ?
Bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était dans ces eaux-là, oui.
Quand il avait, à l'époque, ce qui allait devenir le Théâtre du Rond-Point.
C'est ça.
Si je ne m'abuse.
C'est ça.
Et c'est un spectacle qui va tourner ou pas ? Ou que vous aimeriez faire tourner ?
Oui, bien sûr.
À Avignon, par exemple ?
À Avignon, je ne sais pas. Pour le moment, déjà, on va essayer de le faire tourner au maximum par ici. Puisque quand même, ça reste le but de notre compagnie, c'est quand même de tourner et d'amener le théâtre un petit peu dans les villages, dans les collectivités autour de Montpellier et plus loin si c'est possible. Après, pourquoi pas à Avignon, mais c'est pas le but premier. Mmh. On a plus envie de faire du théâtre au niveau local.
Et au niveau du théâtre Pierre Tabar, au niveau des autres spectacles, vous avez des retours du public autour de ce festival Jeunes Talents ?
Oui, on a des retours. La plupart sont bons, sont comme les vôtres, à savoir qu'en effet, c'est toujours appréciable un théâtre qui laisse sa chance aux jeunes talents. Donc oui, la plupart du temps, c'est des gens qui sont étonnés aussi de ce qu'ils voient, qui voient qu'en effet des jeunes puissent faire ça.
Mmh. C'est important.
Et du coup, oui, on a pas mal de retours très positifs sur le festival en général.
Et au niveau du théâtre Pierre Tabar, qu'est-ce que va devenir la prochaine saison, le théâtre Pierre Tabar ? Question assez angoissante.
Nous, ça ne fait pas peur. Hein.
Est-ce que Damien va rester ? Est-ce que ça va...
Non, je ne crois pas qu'elle reste, puisque Marc Chawat récupère son théâtre, puisque c'est lui le directeur.
Il avait pris une année sabbatique.
Voilà. Donc il revient, et après...
Enfin, il revient peut-être que par la pensée, on ne sait pas.
Donc on est en pleine expectative sur ce qui va se passer l'année prochaine.
Ouais. C'est ça.
On va peut-être rappeler les dates de tous les spectacles. D'abord, Le Silence, la prochaine, c'est quand ?
La prochaine et la dernière, c'est samedi 4, donc demain à 17h.
À 17h.
Voilà.
Voilà, donc on a 2S qui se joue ce soir à 19h.
Venez nombreux.
Du coup, Le Silence demain à 17h, suivi des chaises de UNESCO, donc à 19h. Et ensuite, on a dimanche Les Chaises qui rejouent à 17h et l'heure avant-heure.
De UNESCO.
À 21h, oui.
Et au niveau des tarifs pour ce festival, si on veut tout voir ?
Alors, si on veut tout voir, il y a un pass à 30€ qui donne accès à toutes les pièces du festival. Sinon, c'est 10€ par pièce et tarif réduit à 7€. Et bien sûr, pour les étudiants, il y a le CROUS à 5€, enfin le pass culture.
Voilà, donc merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau. Donc Le Silence, la dernière, c'est demain, donc à 17h.
C'est ça.
Et il faut soutenir les jeunes talents et les théâtres qui aident les jeunes talents et soutenir le théâtre Pierre Tabar. Comme je dis régulièrement, il se passe toujours quelque chose à Pierre Tabar. C'est vrai qu'il y a des spectacles tous les jours,
oui, tous les jours, tout le temps. Et bon, après, évidemment, moi, j'aimerais bien aussi dire aux gens qui en ont envie, soutenez la compagnie Jeux par hasard, qui a fait vivre ce théâtre quand même l'année, qui sera plus là l'année prochaine, enfin, plus là au théâtre Pierre Tabar, mais qui sera toujours là, quelque part, flottant.
Le mystère reste entier. Merci beaucoup à tous. La semaine prochaine, on va faire une émission qu'on n'a pas faite depuis longtemps, une émission spéciale critique entre caresses et coups de gueule, avec les spectacles qui méritent un large détour. Ça sera la semaine prochaine, à la même heure, au même lieu. Très bonne semaine théâtrale à tous. Et on va se quitter avec La Traviata, Maria Callas, un enregistrement fait en 1955 à la Scala de Milan, sous la direction de Carlos Maria Giulini.
Viviamo nei lieti calici che poiché quell'occhio al cuore onnipotente va.
Thank you.